c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix.
Bonjour Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de Mexique, d'un philosophe intellectuel très connu qui vient de décéder. Nous allons lui consacrer quelques lignes encore. Nous allons parler de Venezuela, de Cuba, du Brésil, et aussi un livre paru il n'y a pas longtemps, écrit par un écrivain journaliste français, mais on va voir ça par la suite. Je laisse la parole à Béatrice pour nous parler du Mexique et l'Union européenne au sujet de ces échanges commerciaux.
Oui, des renforcements des échanges commerciaux. Le gouvernement mexicain de Claudia Sheinbaum et une délégation de l'Union européenne amenée par Ursula von der Leyen se sont retrouvés fin mai pour la signature d'une version modernisée de l'accord de libre-échange en vigueur depuis 2000 qui fera sauter les derniers verrous dans le commerce entre les deux parties et exonérera de droits de douane plus de 99% des produits actuellement échangés. Le gouvernement du Mexique attend de nouveaux débouchés pour les avocats, les bananes, le citron, la tequila, les mangues, et s'attend à importer plus de fromage, de vin, de chocolat et de viande de porc de l'Union européenne. Pour inciter les compagnies européennes à investir, le Mexique s'est engagé à réduire ses barrières non commerciales, notamment sur les démarches douanières et administratives. Le Mexique a aussi ouvert l'accès aux marchés publics locaux des entreprises européennes, en leur permettant de participer aux appels d'offres lancés par les gouvernements des 32 États et des municipalités du Mexique dans des conditions identiques à celles des entreprises nationales. À la différence de certains pays de l'UE, où les accords de libre-échange soulèvent des oppositions, peu de voix critiques se sont élevées au Mexique pour questionner la signature de l'accord.
Thank you.
Vous êtes venu écouter l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et aussi, nous avons trouvé L'autre Amérique, la revue éditée à Paris. Ça s'appelle pareil. Donc, nous allons peut-être faire un partenariat. Mais maintenant, nous allons parler encore d'un intellectuel, philosophe, sociologue, dont nous avons déjà parlé la semaine dernière. Mais c'est intéressant parce qu'on a trouvé ces articles, Béatrice,
sur le Courrier international, un insatiable voyageur. Donc il s'agit d'Edgar Morin, dont on avait parlé déjà la semaine dernière, au sujet de la Colombie. En 2009, Edgar Morin a donné une série de conférences en Colombie. À Barranquilla, le penseur français avait écouté les vers du poète espagnol Antonio Machado chantés en son hommage. « Caminante no hay camino, c'est assez camino al andar. » Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Et voici ce qu'il disait, « Je me suis toujours identifié à ces vers », avait-il alors déclaré, se souvient le journal colombien El Espectador, reconnaissant qu'il évoquait sa vie et son œuvre. « Voilà l'image de ma vie », avait ajouté le philosophe sous les applaudissements tonitruants du public, qu'il écouta ensuite expliquer comment toute sa vie il a cherché ses propres vérités. De la Colombie au Chili, où il fut professeur à la faculté des sciences sociales dans les années 1960, avant d'être décoré de l'ordre du mérite Gabriela Mistral en 2008, en passant par le Mexique, où une institution a même été créée pour diffuser sa pensée, Edgar Morin était vénéré dans toute l'Amérique latine.
Oui, c'est très intéressant. On a découvert ça aussi parce que personnellement, je connaissais Caminante, no hay camino, c'est assez camino al andar, il y a longtemps. Et là aussi, j'étais surpris de savoir qu'il a été décoré par de Gabriela Mistral, n'est-ce pas,
oui.
La poétesse chilienne, prix
oui.
Nobel de littérature en 1945. Voilà donc ce que nous pouvons dire de cet intellectuel Edgar Morin. Thank you. Es la historia d'un amour, comme no hay otro igual. Voilà la chanson que même Béatrix connaît depuis très longtemps, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, oui, oui. Au moins depuis 1960, je crois que c'était
oui.
Cette chanson.
L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler maintenant d'un contrat décroché par un Français au Venezuela, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, il s'agit de Mathieu Pigas, un contrat exceptionnel. Le banquier a été sélectionné par Caracas pour négocier la restructuration de la dette du pays. En février dernier, Pigas débarque à Caracas pour offrir ses services au gouvernement vénézuélien. Il croise Thomas Lambert, son concurrent de la banque Lazare, qui espère aussi décrocher le contrat. La pression est intense. Il ne reste pas beaucoup de temps avant que Delcy Rodriguez, qui dirige le pays, choisisse la banque chargée de négocier la restructuration de la dette avec ses créanciers. C'est finalement Mathieu Pigas, patron de la branche parisienne d'investissement CenterView, qui remporte la mise. Pour remporter la course, Pigas, membre du groupe Le Monde, s'est rendu une dizaine de fois à Caracas depuis le début de l'année. La négociation des dettes souveraines n'a aucun secret pour lui. Il a déjà travaillé avec la Grèce, l'Argentine, l'Ukraine ou encore l'Équateur. Mais à l'entendre, c'est surtout son réseau vénézuélien qui le démarque de ses concurrents Lazare et Rothschild en tête. Parmi les principaux créanciers de Caracas figurent les fonds de gestion états-uniens et bien sûr la Russie et la Chine, alliés historiques du chavisme avant le renversement du pouvoir. Le sujet est très politique, car il met en jeu un actif majeur, le pétrole vénézuélien. À défaut de récupérer leur mise, les créanciers réclameront des droits sur cette manne stratégique, propriété de l'État. Pigas va devoir jongler entre de nombreux intérêts antagonistes. Les négociations s'annoncent aussi financières que géopolitiques.
Voilà la musique qui entraîne beaucoup pour danser, n'est-ce pas, Béatrix? Bien, Nous allons parler maintenant de Cuba et des projets de Trump, n'est-ce pas ?
Oui, un trophée de substitution. L'insuccès de Trump en Iran devrait ramener l'île dans la ligne de mire du président états-unien. Une partie des conditions requises pour une chute du régime cubain est toujours d'actualité. Il s'agit de faiblesses externes, l'absence de soutien diplomatique, russe ou chinois, le blocus énergétique organisé par les États-Unis depuis janvier 2026, qui s'ajoute à l'embargo imposé depuis 1962 par Washington. De retour à la Maison-Blanche, Trump a donné un tour de vis supplémentaire au carcan des sanctions états-uniennes en juin 2025. Trump considère une prise de l'île rebelle comme inéluctable. Et voici ce qu'il dit. « Je crois bien que j'aurai l'honneur de m'emparer de Cuba. » Des considérations électoralistes liées au poids des exilés cubains en Floride. Le régime cubain doit donc tomber pour que cette ambition se matérialise et l'insuccès en Iran transforme l'île en trophée de substitution, un prix de consolation dont on ignore cependant le coût. Personne ne sait au juste ce que Trump entend faire de l'île. Une intervention militaire ne semble pas le plus probable, d'autant qu'elle placerait la Maison-Blanche face à de nombreuses contradictions. Enfin, une ouverture de Cuba pourrait s'accompagner d'une vague migratoire en direction des États-Unis, en contradiction avec la politique très restrictive appliquée avec brutalité par l'administration états-unienne.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar las manos siempre en los bolsillos de su gabán pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un zaguán y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie. Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Puñal en mano le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida.
Pedro Navaja, voilà. Donc nous allons parler maintenant, Béatrice, du Brésil, n'est-ce pas? Une usine chinoise?
Oui, le constructeur automobile chinois Baid suscite espoir et critique. À Camaçari, une ville de 300 000 habitants située dans l'état de Bahia, dans le nord-est du Brésil, l'installation d'une usine de voitures électriques du géant chinois Build Your Dreams, Baid, a suscité un vif enthousiasme. Pour cette ville industrielle qui a sombré dans la crise après le départ du constructeur Ford, l'usine de Baid, censée produire 150 000 voitures par an et qui a nécessité un investissement de 940 millions d'euros, redonne de l'espoir. Le groupe a déjà permis à 3 000 Brésiliens de trouver un emploi. Début mai, des dizaines de personnes faisaient la queue devant l'entrée de la gigantesque usine, à quelques minutes du centre-ville, pour déposer leur CV. Dans le centre-ville, les signes de reprise se multiplient. La principale rue commerçante est bondée. Mais l'économiste Raphaël Canin doute que l'entreprise parvienne à tenir toutes ses promesses dans la région. Par ailleurs, la qualité des emplois, pour la plupart peu qualifiés, fait déjà l'objet de sérieuses polémiques. Le président du syndicat, Julio Bonfin, assure se battre pour améliorer les conditions des travailleurs. Afin de maintenir de bonnes relations avec la Chine, le gouvernement chercherait à éviter tout conflit avec la multinationale.
Merci Béatrix. Nous allons passer le temps passe très vite. Nous allons parler d'un livre écrit par un journaliste écrivain français et il a consacré deux chapitres à l'Amérique latine. Mais une journaliste du journal Le Monde conteste pas mal ces deux chapitres, n'est-ce pas Béatrix?
Oui, donc le livre Occident de Frédéric Martel chez Plomb. À propos de l'Amérique latine, le journaliste consacre deux chapitres à l'Amérique latine. Il évoque des figures qui auraient forgé une idéologie antidémocratique et antilibérale sur ce continent, en particulier à Caracas et à La Havane. En Espagne, Frédéric Martel a rencontré des opposants au castrisme et au chavisme, ainsi qu'à Paris, des intellectuels qui ont soutenu les révolutions sur le continent, Régis Debray ou Ignacio Romanet. Étonnamment, son analyse se concentre beaucoup sur l'Europe, quand la méfiance des latinos envers les valeurs occidentales a plutôt à voir avec les États-Unis. L'essayiste passe sous silence ou minimise les 70 interventions directes et indirectes des États-Unis pour faire et défaire les présidents de ce continent. Ces omissions sont patentes dans le récit qu'il fait de l'itinéraire d'Ernesto Che Guevara, qui, dans son voyage à moto, sur le continent, découvre la misère, les salariés exploités. À rebours des travaux universitaires, l'auteur minimise l'effet du blocus états-unien mis en place entre Cuba en 1962. Martel ne s'attarde guère sur les 242 sanctions prises par Donald Trump 2017-2021 qui ont dupliqué l'effet de l'embargo. Dès l'ouverture du livre, Frédéric Martel raconte ses rendez-vous avec Steve Bannon, des proches de Jair Bolsonaro et de Viktor Orban.
Oui, ces deux chapitres, pour moi, ce n'est pas tout à fait partie des livres. C'est presque un pamphlet. Et évidemment, comment il a rencontré Bannon et d'autres d'extrême droite, il raconte sur l'Amérique latine ce journaliste, 624 pages, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui.
Bon, mais pour moi, il aurait dû lire Les veines ouvertes de l'Amérique latine d'Eduardo Galeano. Et pour moi, ça me donne l'impression qu'il ignore beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il est pamphlétaire pour moi. Voilà. Donc, nous allons passer plutôt à la musique. Et on va faire un rappel. Justement, il a parlé de Che Guevara et nous allons entendre encore peut-être un hommage à El Che Vive.
Música acerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todos anda clara, se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con soles de primavera, para blanda la bandera, con la luz de tu sonrisa, aquí se quedará clara la extrañable transparencia.
La extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Notre mission. L'autre Amérique touche à sa fin. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce grand continent. Merci à Béatrice qui nous a livré des informations et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.
De tu brazo libertario, aquí se queda la clara. La extrañable transparencia
de tu querida presencia, comandante.